Okay. Donc, on commence aujourd'hui le Ezrat Avotenu Ataoumeolam. En fait, on était avant dans les brachot d'introduction du Kriyat Shema, qu'on n'a d'ailleurs pas encore terminé. Mais dans l'ambiance de Pessah, dans l'esprit de Pessah, j'ai essayé de réfléchir à quel était le texte de la Tfila qui nous parlait, qui nous décrivait le mieux possible Pessah. Alors, on a le texte du Nishmat Kol Chai, mais on a surtout, je pense, le texte qui est le plus parlant pour nous raconter la sortie d'Égypte, dans lequel on vraiment remercie Akadosh Baruch Hu la sortie d'Égypte de manière très explicite. C'est le Ezrat Avotenu Ataoumeolam qu'on va étudier tout de suite. Vous verrez comment on remercie Akadosh Baruch Hu et qu'on a des termes vraiment très explicites. Vous avez le Ezrat Avotenu? Ok. Alors tout d'abord, je voudrais commencer avec un commentaire que j'ai lu dans un livre qui s'appelle Bnei Issachar. Il explique la différence entre ce qu'on appelle Ezra, quand, et Yeshua. En hébreu, Ezra, c'est quoi? C'est l'aide. Yeshua, c'est quoi? Le salut, la délivrance. C'est quoi la différence en français entre l'aide et la délivrance? D'accord? Parce que c'est des termes qui reviennent très souvent dans la tefila. Il explique comme ça. Il dit que quand je dis l'aide, c'est quoi l'aide, Ezra? C'est quand je vais aider une personne avant même qu'il me le demande. Avant même qu'il m'a montré qu'il a besoin de moi. Je l'aide parce que j'ai envie de l'aider. Yeshua, le salut, c'est qu'il va être en galère. Il va venir me voir, me dire, écoute, je suis vraiment embêté. Et là, je vais l'aider. Ça s'appelle Yeshua. Et là, ce qu'on veut nous dire ici dans le Ezra Tavotenu, c'est qu'on veut dire que Kadosh Baruch Hu, il n'attend pas, bien que des fois Kadosh Baruch Hu, il attend nos prières, mais de manière générale, à Kadosh Baruch Hu, il fait beaucoup de nissim, et c'est quand on va analyser ce qui s'est passé pendant la sortie d'Égypte, où on va voir qu'il y a beaucoup de détails que Kadosh Baruch Hu a fait, alors qu'on ne lui a même pas demandé. C'est-à-dire, c'est vrai que, à Kadosh Baruch Hu, au début, il nous a laissé en Égypte, on a souffert, on a prié, on a pleuré, etc. Mais après, c'est comme un processus qui s'est lancé et on n'a même plus besoin de demander, ça se passe automatiquement. Donc on va lire ensemble. Ezra tavotenu ataou me'olam. Akadosh Baruch Hu, tu as toujours été l'aide, tu as toujours aidé avotenu nos patriarches, me'olam depuis toujours, de tout temps. Toujours. Toujours on sait qu'Akadosh Baruch Hu, qu'on peut compter sur toi. Magen ou Moshia, Akadosh Baruch Hu, et là on continue. Il dit que Magen, Dieu nous protège, ou Moshia et il nous sauve. Donc vous voyez, là on a les deux notions. Protéger, ça veut dire c'est préventif, c'est-à-dire il nous protège de ce qui pourrait nous arriver. Et Moshia, c'est il nous sauve une fois qu'un problème est arrivé. Lahem, à eux, donc à eux c'est à qui? À nos parents. Velivnehem, et à leurs enfants. Achareem, qui ont suivi. Donc, Bechol dor vador à chaque génération, jusqu'à nous. Berum olam moshavecha. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu es installé Birum Olam dans les hauteurs du monde, ça veut dire dans les sphères célestes. Ça veut dire que normalement, tu ne devrais pas t'occuper de nous, tu devrais délocaliser tout ça. Et pourtant, Mishpatecha, ton jugement et ta justice arrivent ad afsearet jusqu'au recoin les plus éloignés de la terre. Alors, afsearet, la traduction littérale de afsearet, ça veut dire
jusqu'à qu'il n'y ait plus de terre.
Jusqu'à qu'il n'y ait plus de terre. D'accord? Donc ça veut dire
aux frontières.
Jusqu'au recoin le plus éloigné de la terre.
Jusqu'au bout du monde.
D'accord? Et ça, c'est pas rien. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il s'occupe personnellement de ça. Berum, donc, Ashreish, Sheishma, les mitzvotecha. Heureux soit l'homme, Sheishma, les mitzvotecha, qui écoute tes mitzvot. Donc ça, c'est l'introduction, hein, on va parler de la sortie d'Égypte. Ouvet Torah, Traoutva, Chayasim, Al-Libo, et qui prennent à cœur, ça veut dire qu'ils se souviennent toujours, de ta Torah ou de tes mitzvot. Maintenant, on va commencer à parler de la reconnaissance qu'on a envers Akadosh Baruch Hu.
Mais pourquoi on dit à chaque fois Emet, Emet?
Emet, bien.
On a vu, là.
Voilà. Là, on n'a pas dit Emet encore.
Si.
Où c'est? Tu l'as sauté.
Emet, Ashrei,
Emet.
Où si vous avez
On a déjà commencé.
Oui, d'accord.
Emet, Ashrei.
Ah, il m'a pas mis Emet, là.
Parce que c'est le Emet.
Pour le rendre ce livre.
C'est le Emet de la fin du schéma, on le répète.
Oui. Alors. Non, la question de M. Bismuth, c'est pourquoi on a répété à chaque fois émettre, c'est vrai, comme si que...
Parce qu'on reprend le
nous-mêmes,
on reprend le de la fin du schéma.
Vous savez, quand quelqu'un il vous fait un discours, il vous dit, mais je vous promets, c'est vrai, il te le répète 10 fois, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est-à-dire que c'est pas si vrai que ça. Alors on va voir ce qu'on va expliquer ici. On va faire un par un.
Là, c'est une prière, c'est une prière qu'on fait.
C'est une reconnaissance.
C'est pas un texte qui sert.
C'est une reconnaissance qu'on a dans la Kadosh Baruch.
Donc on lui dit émettre.
Oui, mais pourquoi émettre?
Bravo. Vrai,
bon, je vais
vrai,
vous donner un autre exemple.
Prix,
Moshav, installation. Ouais. Kadosh Baruch Hu est installé dans le... Alors, quand on fait le Kaddish, à quoi on répond au Kaddish? Qu'est-ce qu'on répond au Kaddish? On répond Amen. Amen, ça veut dire quoi?
J'adhère.
Qu'en est-il?
J'y crois.
Qu'il en soit ainsi.
Ça veut dire c'est vrai.
J'y crois.
D'accord. Alors, j'ai lu une fois un commentaire sur le Kaddish, je pense que par rapport à ça, on peut expliquer sur le Emet ici. Il disait que, pourquoi on a besoin de répéter à chaque fois c'est vrai, qu'il en soit ainsi, etc. Ouais. Comme si qu'on doutait.
Non.
C'est uniquement une manière pour nous de réaliser ce qui se passe. C'est-à-dire, c'est pas pour, on a, à Kadosh, beaucoup, on n'a pas besoin de notre Amen. Qu'on lui dise, oui, tu sais, c'est vrai. Bien sûr qu'il sait que c'est vrai. On va pas vendre de la glace aux Esquimaux. D'accord? À Kadosh, beaucoup, il sait que c'est vrai. Quand je dis c'est vrai, c'est pour moi me convaincre que c'est vrai. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est en général, quand je fais un discours, j'essaie de convaincre quelqu'un. Mais là, c'est pas quelqu'un que j'essaie de convaincre, c'est moi-même que j'essaie de vous convaincre.
Je veux dire qu'on est en train de dire, c'est vrai que... C'est en train de dire...
Là, je vends rien à personne, je suis en train de me le vendre à moi-même.
Voilà. On se dit à nous-mêmes, c'est vrai que ceci...
C'est vrai que... Je suis pas en train de parler à Kadosh Baruch Hu, je suis en train de lui parler, mais il sait que c'est vrai. C'est pas lui que je veux dire que c'est vrai.
Mais c'est un bas niveau, ça. C'est un niveau vraiment...
Non, parce que quand je dis que c'est vrai, ça veut dire...
C'est vrai.
Ça veut dire que ça me concerne.
C'est vrai, ça veut dire... C'est...
Ça veut dire que ça me concerne. Ça veut dire que je me sens concerné, je pense que c'est important.
Des fois, l'histoire, elle a tendance à nous prouver que peut-être qu'on se trompe. Alors,
exactement.
Donc c'est un bas niveau. C'est vraiment...
Non, pas du tout. Moi, je pense que c'est un haut niveau, ça.
On essaie de se convaincre.
Ouais. Pas du tout, c'est un haut niveau, ça.
On a plus confiance. Mais quand on a la confiance...
Non, mais attendez, la confiance, ça veut dire quoi la confiance? Mais être persuadé que c'est vrai à 100% et que ça me concerne et que j'y crois à 100%, c'est pas rien, c'est très dur, ça. Pas simplement dire que oui, je sais que ça nous est arrivé à 2000 ans.
Les cultes de pommes de terre, c'est un mangeur.
Alors, attendez,
c'est vraiment le goût des fêtes.
Il y a une explication sur
ce que
je veux dire.
Oui.
C'est répété 6 fois.
Oui.
Et en fait, c'est là qui va être entre le Kachema et l'Amida. Donc, entre le Kachema qui émet la vérité et l'Amida qui émet la vérité. Et chacune des lettres en rapport avec une des brachot de l'Amida. Et comme on peut mettre ces 3 lettres répétées 6 fois, ça fait 18 lettres. Chacune des lettres est en rapport avec une des brachot de l'Amida.
De l'Amida. Et la 19e bracha.
Et chaque lettre est en rapport. La première, le Aleph, c'est la bracha de Avot, le Taf avec Metim, le Taf avec Metim, le Taf avec
Metim. Joli
commentaire. A posteriori, non, ou bien c'est la structure.
C'est le Zohar qui dit ça?
C'est fait en fonction de son. Oui, parce que c'est ce qui va permettre de monter.
Ou c'est Ruach HaKodesh.
Non, c'est ce qui permet de monter sur Olam Atzilut, c'est-à-dire le monde supérieur.
C'est le sol, Charlie.
Et elle a été tournée pour faire une introduction à ce qui sera
Ruach HaKodesh. Chazak.
C'est beau ce que tu dis.
Ah, Chazak.
Il instruit.
Ah oui, un Chazak est toujours
instruit. Il est pas comme nous. Il est même destruit.
Ah, non, c'est toujours des...
Il y a des petites intéressantes. Interventions.
Bien. Très intéressantes, Razak.
Ouais, non, mais...
Alors, j'étais en train de dire, Emet, Ashri, donc où j'étais, oui. Emet, Atahu Adan Lamecha. Donc voilà, donc ça veut dire qu'en vérité, donc, comme j'ai dit, quand on dit Emet, donc mis à part ce que monsieur a expliqué, quand on dit Emet, on est en train surtout de se convaincre à soi-même. De se convaincre à soi-même que c'est vrai, qu'il faut y croire et qu'il faut adhérer à 100%. Donc je continue. Emet, Atahu Adon Lamecha, Umeler Gibor, la rive rivab. Il est vrai que Akadosh Baruch Hu, tu es Adon, un maître, les Amecha, à ton peuple. Alors Adon, en général, c'est dans le sens maître d'esclave. D'accord? Donc seigneur. Les Amecha, à ton peuple, Umeler Gibor, la rive rivab, et un roi qui est fort, la rive rivab, pour se battre à leur place. Donc on parle ici de deux notions. On parle ici de seigneur, d'accord, donc de gouverneur et de roi. C'est quoi la différence? C'est que le gouverneur est gouverneur pour son peuple, c'est-à-dire qu'il s'occupe de son peuple, alors que le roi, en général, quand on dit Meler, c'est plus celui qui va aller se battre pour son peuple vers l'extérieur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que le même roi peut être en même temps gouverneur et roi. Mais le gouverneur, c'est l'aspect gouvernant, ça veut dire qu'il s'occupe de son peuple et qu'il gère tout ça. Et le roi, c'est plus par rapport aux relations avec les pays extérieurs, qu'il va se battre avec les pays extérieurs, qu'il va faire la loi, etc. Donc Akadosh Baruch Hu, il est Adon et Meler. Il est en même temps gouvernant, et Meler également le roi, c'est un roi qui est fort, la rive rivam, pour se battre à notre place.
Ah, la rive rivam, c'est ça.
Oui, la rive. Rive, c'est une dispute en hébreu. La rive rivam, pour combattre notre combat, pour se battre à notre
place. C'est une prose, hein, qui est bien faite, parce qu'ils prennent des mots qui se ressemblent, il y a un rythme là-dedans.
Bien sûr, non, c'est clair. Alors, de toute façon, vous verrez qu'il y a des rimes ici, c'est très clair.
C'est soit notre combat, soit nos combattants. Soit ceux qui nous combattent.
Alors, rivam, ça veut dire leur combat.
Leur combat ou ceux qui nous combattent.
Oui, donc naturellement nos combattants, mais ça veut dire le mot rivam, la traduction littérale, c'est de combattre nos combats. C'est-à-dire des choses qui sont pour nous un combat. Alors j'ai lu un commentaire sur ça qui dit, ça veut dire quoi combattre nos combats? C'est un peu un, comment dire en français, un pléonasme. D'accord? Si c'est combattre, il va combattre quoi si c'est pas un combat? J'ai lu un commentaire qui dit la chose suivante. Il dit que des fois, il y a des choses qui nous paraissent importantes dans la vie, alors qu'en vérité, c'est des choses insignifiantes. Et on va se mettre à faire des filotes à Kadosh Baruch Hu, je t'en prie, fais que ça marche, etc. J'arrive pas, c'est difficile. Mais en vérité, à Kadosh Baruch Hu d'en haut, d'accord, de l'image d'en haut, il voit que c'est pas important, c'est pas le bout du monde, c'est rien du tout. Et maintenant, moi, je prie à Kadosh Baruch Hu, je t'en prie à Kadosh Baruch Hu, aide-moi. À Kadosh Baruch Hu, il nous aide quand même. C'est ça, combattre leur combat. C'est que des fois, c'est même pas le combat d'un Kadosh Baruch Hu, parce que c'est, bon, c'est insignifiant.
Bon, il a pitié de nous, il nous fait plaisir. Mais
c'est comme un enfant, il pleure, il dit, je veux un bonbon.
Je vais te lâcher, d'accord.
Allez. Ici, ils traduisent différemment. Combattre, c'est actif.
Oui.
Ils disent défendre. C'est défendre leur cause. Là, combattre, c'est un attaquant, il...
Rive en hébreu, c'est une dispute, hein.
Et un défenseur, il défend.
Rive en hébreu, c'est une dispute.
Ouais, en général.
Par exemple, dans la Torah, on parle d'une dispute qui est entre deux hommes et qu'il y a la femme d'un de ces deux hommes, hein, donc
dans lequel ils défendent leur cause.
Avec la paracha, et là-bas, on parle de rive. C'est un rive. C'est une dispute.
Ouais. La phrase
en français, Eric.
La phrase en même, c'est un pléonasme. Parce que il combat ou non combat, quel autre combat il peut combattre? Il en a
non,
pas mis.
Justement, ça veut dire il combat un combat qui n'est pas le sien mais qui est que le nôtre. C'est-à-dire un combat qui n'est pas un combat en vérité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est ça le remez. Qui combat nos combats, c'est la vérité, c'est pas un combat, il y a qu'un jour, mais c'est rien, ça, qu'est-ce que tu prends la tête avec ça?
C'est les nôtres.
C'est les nôtres.
Non seulement qu'est-ce que c'est, mais vu que lui, il n'en a pas des combats, alors que...
Il y en a des combats. Le combat contre le mal, par exemple, contre Amalek, c'est des choses importantes. Mais des choses qui sont pas importantes.
Oui, c'est pas un combat.
Je vous donne un exemple. C'est comme, par exemple, un enfant que... on l'embête. D'accord? Ton fils, on l'embête. Donc tu vas le défendre. Alors, pour ça, c'est important. Tu vas pas combattre son combat, tu vas combattre ton combat, parce que c'est important pour moi. Non, après un jour, ton fils va dire, oui, écoute, tu sais, papa, je veux un bonbon, pour lui, c'est une guerre, il veut son bonbon, il veut son jeu. Après, tu vas dire, attends, c'est pas important, c'est pas ton combat, mais c'est le sien, et tu le fais quand même pour lui, parce que c'est ton enfant. C'est ça, Kadosh Baruch Hu, la rive, rivam.
J'ai compris la métaphore. Juste, ce qui se passe, c'est que si Kadosh Baruch Hu, il a décidé tout ce qui devait se passer, il peut pas entrevoir ça comme étant un combat, puisque c'est lui qui l'a décidé.
Ah, c'est une autre question, ça.
Oui.
Attention, c'est une autre question, c'est pas la même question que tu as posée. C'est une autre question. Ça veut dire que...
J'étais inclus, parce que c'est comme ça que je l'appréhendais, c'est pour ça que...
Oui, j'ai compris. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a des détails qui nous paraissent importants dans la vie, alors que c'est des détails insignifiants. Voilà, non mais c'est ça. Et que tel qu'Akadosh Baruch Hu a prévu, c'est pas grave si ça passera. C'est-à-dire, c'est un détail qui est pas important. Maintenant, nous, des fois, avec la force des choses, avec notre libre arbitre, on peut décider que pour moi, ça c'est important. Pour moi, si j'ai pas ça, je serai pas content. Non, Kadosh Baruch Hu, il dit, écoute, je vais pas toucher ton libre arbitre, mais c'est pas important. Mais comme on demande à Kadosh Baruch Hu, écoute, tu le veux, je te donne, pas de problème. Comme il y a la Gemara qui illustre ça, hein, qui dit que, vous savez, quand on a l'obligation de donner la tzedaka, on dit, on donne la tzedaka selon ce que la personne attend de nous. Ça veut dire quoi? La Gemara, là-bas, elle explique le jeu suivant. T'as dit que, par exemple, un pauvre, bah, tu lui donnes à manger, il est content. Mais une personne qui était riche, et que même si tu lui donnes à manger, il va pas être content. La Gemara dit, là-bas, elle dit, à Filoussous, Ve'eved, Irkov, le fanat. Même si, pour lui, pour être heureux, il a besoin d'avoir un cheval qui court devant lui avec un esclave qui dit, oui, à vos ordres, patron, il faut lui donner.
Il faut les avoir,
c'est arrivable. Non, mais c'est aussi. C'est ça, il faut les avoir. Si on a les moyens. C'est arrivable. C'est-à-dire que finalement, dans le genre, je dis, mais attends.
C'est pas des questions de bien. C'est bien sûr pour avoir les moyens.
Ok, on continue. Alors, je suis fatigué comme ça. Léavot ou Vanim,
ouais,
vous voyez, voilà, Léavot ou Vanim.
Il y a une association.
Un roi, donc qui est fort pour se combattre, Léavot ou Vanim, le combat des parents, le combat des enfants. Vous avez compris maintenant pourquoi on parle des parents et des enfants? Pour dire qu'il y a des combats qui sont plus importants, des combats qui sont des combats enfantins. C'est ce que je viens d'expliquer. Et Kadosh Baruch Hu le fait quand même. Emet, il est vrai. Atahu Rishon, Vatahu Aharon. Akadosh Baruch Hu, tu es le premier et tu es le dernier. C'est-à-dire quoi le premier et le dernier? Explique le commentaire du HSF. Le premier, ça veut dire celui qui nous a fait des miracles quand on a démarré en tant que peuple, donc quand on est sorti d'Égypte. Et le dernier, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous montrera des merveilles, qui nous montre des merveilles en exil et qui nous montrera des merveilles surtout quand on sortira de cet exil avec Mashiach. Atahu Rishon, Vatahu Aharon. Tu es le premier, c'est-à-dire tu es celui qui nous a lancé en tant que peuple et tu seras le dernier, celui qui terminera cet exil et qui nous amènera Mashiach. Oui, baladecha en lanu, melech, goel ou moshia. Ah, c'est une phrase clé. À part toi, Kadosh Baruch Hu, on n'a personne, on n'a aucune autre personne, Goël qui peut nous, donc qui peut nous, nous sauver, d'accord, enfin qui peut nous libérer, ou Moshira, et qui peut nous sauver. D'accord, là maintenant on va parler de la société d'Égypte, c'est pour ça que j'étudie ça aujourd'hui. Emet, il est vrai. Mimitzraim Gealtanu Hashem Elokenu. Donc on a dit Rishon Acharon, rappelez-vous. On a dit que Dieu nous a libérés, il nous a lancés en tant que peuple, et on attend qu'il nous amène Mashiach. Donc on va commencer par le début. Comment Akadosh Baruch Hu nous a lancés en tant que peuple? Emet, il est vrai. Mimitzraim Gealtanu Hashem Elokenu. Tu nous as libérés d'Égypte, Hashem notre Dieu. Pourquoi il dit Hashem notre Dieu? Ben, c'est qui nous a libérés? Bien sûr, c'est Dieu qui nous a libérés. Alors vous savez, dans la Gada, on dit que Akadosh Baruch Hu nous a sauvés, lo al yedei malach, velo al yedei saraf, ni par un ange, ni par un représentant, et la Akadosh Baruch Hu birvodo ou beatmo, c'est Akadosh Baruch Hu en personne qui nous a sauvés. Il est venu lui-même, il a dit, ve'avarti beres mitzrayim, comme on dit dans la Gada, Dieu dit, je passerai, c'est moi-même qui passera. Et c'est ce qu'on dit ici. Mimitzrayim gealtanu, de l'Égypte, tu nous as libérés, Hachem Elokeinu, toi-même Hachem. T'es pas passé par personne interposée. T'es pas passé par un ange, par quelqu'un qui pourrait nous aider. Mimitzrayim gealtanu, c'est toi, Kadosh Baruch Hu, qui nous a libérés d'Égypte. Umibet Aravadim, Peditanu. D'une maison d'esclaves, tu nous as sauvés. Pourquoi on l'appelle l'Égypte une maison d'esclaves? C'est vrai qu'on était esclaves là-bas, mais pourquoi on l'appelle une maison d'esclaves? Alors, la Gemara explique, dans la Gemara Psachim, la Gemara Psachim, elle raconte, elle a dit qu'on savait qu'un esclave qui rentrait en tant qu'esclave en Égypte ne ressortait jamais. Et donc du coup, les autres peuples, quand ils parlaient d'Égypte, ils disaient, ouais, là-bas, ouais, la maison d'esclaves. Parce qu'on savait qu'un esclave qui rentrait là-bas, il ressortait jamais. Parce que vous savez qu'à l'époque, c'était fréquent les esclaves. Donc on avait une rotation. C'est comme les pièces de monnaie. C'était des biens, donc on a mis une rotation, ça veut dire que ça s'est changé, donc normalement un esclave, un jour il est là, demain il est dans un autre pays. Voilà. C'est-à-dire, normalement, un esclave, il y a une rotation. Ça veut dire qu'aujourd'hui il est là, demain il est ailleurs, et peut-être le surlendemain il sera libéré. C'est possible. On sait pas de quoi le lendemain est fait. Mais en Égypte, on savait qu'un esclave qui rentrait en Égypte, c'était ad vitam aeternam, il sera là-bas. D'ailleurs, ils avaient fait une technologie égyptienne avec la sorcellerie, que dès qu'il y avait un esclave qui voulait sortir d'Égypte, de manière générale une personne qui voulait sortir d'Égypte, il y avait tous les chiens d'Égypte qui se mettaient à aboyer.
Ah bon? Ouais. Sans compter juste derrière les
ça veut dire que impossible de passer. Imaginez tous les chiens, Mirador tout de suite, on sait qu'il y a quelqu'un qui est sorti. Ah bon? Le Mirador, ça nous rappelle.
C'est Alcatraz. L'Égypte, c'était Alcatraz.
Ils avaient le 1 par feu.
Encore.
Ils avaient des. Non mais moi quand je pense à ça, ça me rappelle. Quand j'ai le Mirador, ça me rappelle.
Il y avait des créatures malfaisantes. Juste à la sortie de la ville, qui attendait tous les chiens qui voulaient s'échapper.
Bien sûr. Attendez, mais tous les chiens, ils se mettent à aboyer.
Un truc de sorcellerie. Hein.
Et donc, du coup, les autres nations, ils appelaient ça Beth Avadim. Beth Avadim, ouais, la maison des esclaves. C'est là-bas, il y a...
Ça veut dire quoi, Peditanus?
Peditanus, il nous a libérés. Podé.
Peditanus, sauvé aussi.
Podé, en hébreu, ça veut dire Pidyon Jvouim, comme le rachat des prisonniers. Le rachat. Le rachat des prisonniers. Donc, Akadosh Baruch Hu, on a dit Mimitzraim Galtanu Hashem Elokeinu. Akadosh Baruch Hu nous a libérés en personne de Mitzraim. Oui, Bet Avadim Peditanu. Et de ce Mitzraim, c'était quoi? C'était un endroit que Bet Avadim, que toutes les nations du monde savaient, c'est un peu l'équivalent de l'Amérique d'aujourd'hui, que celui qui rentre en tant qu'esclave ne sort jamais. C'est sûr. Alors, on le savait. Et de là-bas, Peditanu, Akadosh Baruch Hu nous a rachetés, nous a libérés. Kol Bechorem Harakta. Akadosh Baruch Hu, toi-même, encore une fois, tu, pourquoi on dit tu? C'est pas ils sont morts. Quand on dit ils, ça veut dire comment? Dieu a donné l'ordre, après ça a été fait. Non, ça c'est des choses qu'Akadosh Baruch Hu a fait en personne. C'est pour ça qu'on lui parle directement, on lui dit tu l'as fait. Kol Bechorem Harakta, tout leur premier-né tu as mis à mort. D'accord, alors, quand on dit Kol, en vérité, il y a une exception, c'est Paro. Par Paro, tous les premiers-nés sont morts. Ou Frocha Israël Gaalta. Et ton premier-né, tu as libéré. Vous voyez, la rime, ça veut dire Dieu a tué tous les premiers-nés égyptiens. Et son premier-né, Gaalta, il a libéré. Là, vous voyez, là c'est les rimes. Veyam, donc, Ufror Israël Gaalta, Veyam Sulaim Bakata, Zenitibata, donc on va traduire. Ufror Israël Gaalta, ton premier-né, Israël, tu as libéré. Parce que dans la Torah, dans plusieurs endroits, Akadosh Baruch Hu nous appelle son fils premier-né. Ça veut dire que les autres nations sont également les enfants d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que quand Dieu préserve, vous entendez des gens qui ont envie de négliger l'égoïme, c'est une erreur. Parce que tous les peuples sont les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu s'occupe de toutes les nations. Mais, dans les nations, d'accord, parmi les peuples, parmi les enfants, il y a un enfant qui est le plus important. Moi, il m'a dit une fois, un Africain, il m'a dit, vous êtes le peuple élu. Vous êtes le peuple élu, comme ça, il me dit. Ça veut dire que Mitzrayim, comme on dit ici, Bechor Israël. Am Israël, c'est le Bechor. Akadosh Baruch Hu dit, Béni Bechor Israël, mon fils. Ko Amar Hashem, ainsi a dit Dieu, Béni Bechor Israël, mon fils aîné est Israël.
De Gaulle, il a dit,
qu'est-ce qu'il a dit?
Qu'on était le peuple élu.
Ouais, il a dit aîné.
Non, pas élu, il a dit pierre et dominateur. Mais par contre, le dernier pape, Léaville, il a dit Israël est le frère aîné.
Aîné, il a dit? Il a dit le mot aîné?
C'est ça qui a fait une révolution. Quoi? Il a dit ça.
Oui.
Pas rien.
Ouais, moi j'ai compris aîné dans le sens, il y avait l'ancien avant le nouveau, quoi.
Non, là il a dit aîné. Il y a un changement là en ce moment. Hein.
Pas ce pape, celui qui était avant.
Oui. Oui, mais ce pape-là, il colle bien. Là.
Bon, allez, la dernière.
C'est bon,
bah oui, attendez. Bon, ça y est, on a dit. Vous avez toujours hein, des incursions particulières.
Vrai, il a dit c'est notre frère aîné.
D'ailleurs, il s'est converti, d'ailleurs, il a fait tout le monde se convertir. Non, allez, continuez dans quel faire.
Non, il dit c'est notre frère aîné.
Alors, au Prochra Israël Ga'alta. Donc, messieurs, Kol Bechorei Maharakta ou Prochra Israël Ga'alta. Tous les premiers-nés, tous leurs premiers-nés, tu as tué. Ou Prochra Israël Ga'alta et ton premier-né, Akadosh Baruch Hu Israël, Ga'alta, tu as libéré toi-même en personne. Veyam Soufflem Bakata, la mer, d'accord, donc la mer des gens, la mer rouge, on l'appelle aujourd'hui. Laem Bakata, donc tu as fendu la mer pour eux. Parce qu'on dit que la mer a été, aujourd'hui, les gens disent que la mer a été ouverte. Non, mais c'est une mauvaise traduction. La mer n'a pas été ouverte. La mer a été fendue. Quand elle a été fendue, c'est vraiment, c'est comme un mur.
Crevasse.
C'est quoi quelque chose de fendu? C'est que c'est vraiment coupé en deux. C'est coupé. Il y a une fente. D'accord? Et c'est comme ça dans la mer. C'est-à-dire que c'est pas que la mer, tout d'un coup, il n'y a plus de mer. C'est qu'il y avait comme des fentes très larges dans la mer. Et en passant, il y avait la mer il y avait de l'eau de tous les côtés. C'est un miracle extraordinaire. C'est pour ça qu'on dit Bakata.
Le commandement, c'est pas comme ça.
Bakata. S'il avait refait aujourd'hui avec les effets spéciaux, ils auraient pu le faire, je pense. Hein.
À l'aise.
Tranquille, hein, non? Ils auraient supprimé. Hein.
Attends, au jour d'aujourd'hui. D'ailleurs, on attend Spielberg.
Ok. Alors, Bezedim Tibata, tu as noyé les méchants. Vididim et Varta, et tu as fait passer les amis. D'accord? Alors, bon, ici, c'est vous, chez vous, c'est peut-être écrit Vididim Avruyam. Voilà. Bon, c'est une autre version. Chez moi, c'est écrit aussi Evarta, mais il y a une autre personne dans laquelle c'est écrit Avruyam. Alors, c'est la même chose. Evarta, c'est-à-dire tu as fait passer, ou bien Avruyam, ça veut dire les amis ont passé la mer. Alors, je vais expliquer pourquoi il y en a qui disent Evarta, il y en a qui disent Avruyam. Ceux qui disent Evarta, c'est parce que ça rime. Alors, on a dit Arata, Israël Galta, Vyasuflam Bakata, etc. Ceux qui disent que Vidim Avruyam, pourquoi ils disent pas Evarta? Parce qu'en vérité, Kadosh Baruch Hu nous a pas fait passer. Kadosh Baruch Hu a ouvert la mer, mais nous, on est passé tout seul.
Les invités à passer.
D'accord, donc on peut pas dire que les amis et Varta tu as fait passer. Il nous a pas fait passer, il nous a ouvert la mer, on est passé. Donc c'est pour ça que c'est un peu, il y en a qui disent Avruyam, il y en a qui disent que les amis ont passé la mer. C'est nous, c'est ceux qui sommes les amis d'Akadosh Baruch Hu, on est passé dans la mer. Mais bon, il y a beaucoup de tisorim dans lesquels c'est quand même écrit Evarta, puisque étant donné qu'Akadosh Baruch Hu c'est lui qui nous a ouvert la mer, donc quelque part c'est comme si il nous a fait passer. Même s'il nous a pas pris par la main, il dit viens, je te prends, il nous a fait passer. Oui, donc c'est pour ça que Evarta Avruyam.
Le verset d'après, il va nous manquer le terme des Égyptiens.
Vayechasu Maim Tsarehem, les eaux ont recouvert Tsarehem, donc leurs ennemis, aux Juifs. Echad Mehem, le notar, il n'en est pas resté un seul. D'accord? Echad Mehem, le notar. Alors, encore une fois, on dit Echad Mehem, le notar, ça c'est le pasouk, mais il restait quand même un. Qui c'est qui est resté?
Mir.
Qui c'est qui est resté? D'accord?
Pharaon.
C'est Pharaon. Et c'est écrit que Pharaon normalement devait mourir là-bas sur place. Mais Akadosh Baruch Hu lui a dit, c'est une mort lente, encore pire. Il a dit, toi, je te laisse attendre que tu vois comment l'homme Israël va s'en sortir et comment il va récupérer. Et
non, après... il paraît qu'il est parti.
Oui, il est qu'il retrouve après le Hanilim.
Eh oui.
D'accord? Parce que, mais il a été tué, Becharev. Parce que Moshe Rabbeinu, il a dit, tu seras mis à mort. Arag. D'accord? Tu seras mis à mort. Et chaque fois que il était tué à l'épée. Il était tué à l'épée par...
un autre roi, alors.
Par, non, par Yona. Non, pas par Yona.
Non, c'est à l'époque de Yona.
Il a été, on sait que Pharo a été tué par l'épée. Parce que Moshe Rabbeinu, il a employé le terme Oreg. Il a dit, tu seras tué. Et je te verrai plus. C'est d'ailleurs le plus vu. D'accord? Et lui, tu seras tué. Et on dit que chaque fois que tu écris le mot Oreg en hébreu, Harag, c'est par l'épée. D'accord? Et c'est ce qui s'est passé. Il a été tué par l'épée. Mais en tout cas, le Midrash raconte, il dit que comment ça se fait que Pharo, qui était un Bechor, n'est pas mort tout d'abord dans la mort des premiers-nés, il n'est pas mort avec tout le monde dans, dans l'eau, c'est parce que Kadosh Baruch Hu voulait qu'il les voit sortir.
Ouais. C'est par les pays, alors que là on dit que tous les premiers, leurs premiers sont morts.
Oui.
C'est pas par les pays, ils sont morts par les
naturels. Eux, ils sont morts naturellement. Ça, je dis qu'à chaque fois je dis tous, mais il y a une exception. D'accord. Il y a toujours l'exception qui confirme la règle.
Ouais, mais là, il a mis Arasta.
Il a mis
Arasta, comme la femme Arasta.
Oui.
Par l'épée.
Oui. Par l'épée.
Non, c'est vrai.
Par l'épée divine, on va dire.
Oui, pas PET, hein. Bon, on continue.
Dans le Chumash, quand on dit Arasta, en général, c'est le Erek. Echad mehem le notar.
Vous connaissez déjà ça à l'époque.
Alors, Echad mehem le notar, donc un parmi eux n'est pas resté. D'accord ? Alors, donc la Gemara pose la question, elle dit, mais je comprends pas comment tu peux me dire qu'aucun n'est resté, mais on sait qu'il y a Paro. Alors quand tu me dis encore avant, bon tu me dis tout le monde est mort, bon, je veux bien comprendre qu'il y a une exception, mais là tu me dis clairement, tu dis explicitement, il n'y a pas un qui est resté.
Il y a le pire qui est resté.
D'accord ? Il y a le pire qui est resté. Il y a un problème. Alors la Gemara dit comme ça, d'accord ? La Gemara dit comme ça, elle dit « Echad mehem le notar », ça veut dire quoi ? Ça veut dire que « Echad mehem », c'est qui « Echad » ? D'accord ?« Echad mehem », c'est le « Echad ». Non, attendez, comment la Gemara explique ? « Echad », c'est quoi « Echad » ? « Echad », c'est celui qui est « Echad ameyuchad », c'est celui qui est unique. Qui c'est qui est unique et que tout le monde connaît en Égypte ? C'était Pharao. Et comment on comprend ?« Echad mehem », l'eau, celui parmi eux qui disait « l'eau », qui disait je ne connais pas Akadosh Baruch Hu, notar, il est resté.
C'est joli. Mais attends, bon, ça dépend aussi comment on écrit l'eau. Parce que ça peut aussi dire un seul lui, il est resté.
Oui. Non, parce que le sens simple, c'est on va dire que tout le monde est mort. Mais pour expliquer le fait que Paro est resté, il y a une allusion. Echad Mehem, que celui qui était Echad, celui que tout le monde connaissait, unique, c'est Paro. Parmi eux, c'est Paro. L'eau, celui qui dit toujours non. Il arrêtait pas de dire non. Il a dit non à tout. Non, à Kadosh Baruch Hu, non, vous ne sortez pas, non.
Ouais.
Notar, il est resté.
Nokia. No.
Ok, alors on s'arrête là, c'est l'heure. Ouais, quand tu laisses pour prochaine, Bezrat Hashem, encore son pétard.
Ouais, parce que si on n'avait pas écrit Lamed Aleph, ça pouvait aussi le faire. Ouais, tu vois?